Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Portrait du mois sur Éthique, le média destiné aux jeunes de la communauté. Nous recevons aujourd'hui Zeynep de Coran de mon cœur. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Donc très heureuse de vous recevoir, vous vous nommez donc Zeynep, vous êtes enseignante de Coran, ou plutôt vous enseignez l'amour du Coran, comme vous aimez à le répéter. Vous êtes mère de famille et vous tenez le podcast Coran de mon cœur, où vous mettez en lien la vie quotidienne de la jeunesse musulmane, féminine essentiellement, avec le Coran. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler un peu votre parcours, vos projets actuellement, finalement nous dire qui est Zeynep de Coran de mon cœur?
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plein de questions en une là. Mais je dirais que je me définis comme une femme de ce monde, la digne fille de Mohamed et de Aïcha, donc mes deux parents, et la digne enfant aussi, comme toi et comme nous toutes, de papa Adam et maman Hawa, nos ancêtres à tous. Je suis également effectivement maman de trois enfants, et je suis à côté de ça, accessoirement, interne en médecine générale. Je suis dans ma dernière année, donc la 9e année de médecine générale.
Ah, mashallah.
Et donc, au niveau des projets, bah écoute, déjà de pouvoir terminer cette fameuse thèse sur laquelle je signifie un bon moment, Amin Ya Rab, toujours dans l'enseignement du Coran, parce que finalement, il y a deux gros pôles hein, dans ma vie. Si j'enlève la vie familiale, finalement, qui elle va tapisser tout, c'est-à-dire quand t'es maman à temps plein, t'es pas maman, c'est pas un projet,
c'est là,
et puis c'est tout. Et donc, du coup, mes deux gros pôles, ça va être les deux médecines, comme j'aime dire, la médecine du corps, la médecine de l'âme. Donc la médecine conventionnelle, donc les études de médecine terminaient cette thèse, et l'enseignement du Coran que j'aime bien pousser en fait à jusqu'où il peut aller quoi. Donc la base même, le socle même, c'est l'amour du Coran, parce que sans amour du Coran, j'ose croire en tout cas que c'est très compliqué d'en saisir l'essence, et c'est très compliqué de l'appliquer au quotidien, et si on ne l'applique pas au quotidien, bah, du coup on n'a pas la formule pour pouvoir vivre dans ce monde sereinement et pouvoir adorer Allah comme on devrait le faire et retrouver le chemin vers le paradis finalement, parce que c'est ce qu'on essaye tous de faire. Voilà.
Mashallah, donc il y a vraiment beaucoup de sens dans ces paroles. On voit que pour vous finalement la pédagogie dans l'enseignement du Coran, c'est vraiment quelque chose de primordial, et d'ailleurs on le voit, c'est central finalement dans votre podcast. Et justement cet amour du Coran et finalement de la pédagogie d'enseigner le Coran, est-ce que ça a été le fruit d'un déclic ou alors d'une longue éducation? Peut-être que c'est pendant des études religieuses que vous avez menées. Comment le Coran finalement est devenu un ami fidèle pour vous?
Alors, le Coran, j'ai toujours baigné dedans, si je puis dire. J'ai toujours baigné dedans parce que bah, je l'ai appris depuis petite, je pense comme la plupart des foyers musulmans. J'ai un papa qui l'a mémorisé en entier, mais il était petit quand ça a été le cas. Donc du coup, nous, on l'a toujours connu comme ça. Donc c'était quelque chose qu'on avait limite pris pour acquis. Et pour le coup, j'aime bien raconter ça parce que c'est ma mère qui nous a plutôt tous motivés, mes frères et sœurs et moi. Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Et on a tous copié-collé le parcours de maman, entre guillemets, parce qu'elle, au retour d'un hajj, donc à l'aube de ses 50 ans, a décidé de mémoriser le Coran en entier. Donc ça lui a pris 3 ans. Et l'année où elle a terminé, bah, en fait, nous tous les cinq, l'une année après l'autre, eh bien, on refaisait la même chose. Et en fait, l'amour du Coran a toujours été présent. Mais disons que ça a pris un tournant quand j'ai pris en charge mon propre apprentissage, mes propres révisions, parce qu'on est toujours quelque part suivi un peu par les parents, après par les enseignants qu'on a, l'école arabe, etc. Mais vient un moment donné où on se dit, mais j'avance dans mes sourates, en fait, j'avance jusqu'où là où je peux aller. J'étais allée jusqu'à Sourate Yassine, mais sans objectif, c'est-à-dire il n'y a pas eu, quand j'étais petite, il n'y avait pas cet objectif de le parcourir en entier, en tout cas pas dans son apprentissage. J'avais forcément cette curiosité de savoir qu'est-ce que le Coran voulait me dire, et je ne poussais pas forcément les choses plus loin. Et est venu un moment, donc c'était pendant l'adolescence, donc à la fin du lycée, où là j'avance, et je me dis non, mais en fait, il y a la fac qui s'approche, j'ai toujours voulu faire de la médecine, c'est très prenant la médecine, mais je ne me vois pas aller étudier cette médecine-là avant de passer du temps avec mon grand amour, le Coran. Donc le choix a été un peu difficile au début, parce que forcément, dans mon entourage, ça va, mais Je sais qu'il y a des amis de mes parents ou bien des enseignants ou des voilà qui étaient en train de dire mais c'est de la folie, ne la laissez pas prendre une année sabbatique comme ça pour le Coran et aller en médecine, elle va rater tous ses acquis, elle a eu son bac, ne la laissez pas faire cette bêtise. Et moi j'étais comme un peu en solitude avec mes parents, l'air de dire en gros on ne calcule pas le monde extérieur, toi de quoi tu as besoin. Et du coup on s'est mis d'accord que je ferai que un an de césure en tout cas entre les deux. Donc c'était assez compliqué dans ma tête, parce que je me dis, bah, j'avais appris la moitié du Coran jusqu'au bac, et il restait l'autre moitié. Et l'autre moitié, en un an, je ne le voyais pas. Je me dis, mais moi j'ai appris ces 30 premiers hizb pendant toute ma scolarité. Et comment je vais faire, en fait, comment je vais faire pour concentrer ça sur une année, sachant que je suis allée dans un institut spécialisé sur ça. J'étais en internat, donc je ne dormais pas chez moi. J'étais en internat, et donc... le programme, normalement, pour finir tout le Coran, est sur 3 ans en comptant l'ijaza. Et mon père me dit, t'auras un an. Si tu le termines, tant mieux pour toi. Si tu le termines pas, tant pis pour toi. Mais j'ai compris que c'était stratégique. Il savait que sa fille Zainab a un surnom, battante. Il s'est dit, bah, écoute. Et puis, en fait, il m'a challengé. J'ai vraiment là compris que mon père me connaissait très bien. Il s'est dit, mais si je lui dis, prends ton temps, non. Tu vas faire un an. Là où les gens le font en 3 ans, toi tu vas le faire en un an. Et ça a fonctionné. Parce que du coup, bah, j'ai mis les bouchées doubles, je me levais à 5h du matin, je me couchais à 23h et c'était le même régime tous les jours. C'était drastique. Je ne traînais pas, je ne chahutais pas, je n'allais pas. Voilà, mon trajet c'était vraiment la salle de classe, la mosquée, le dortoir, c'était seulement pour dormir et prendre une douche. Et un an comme ça, de manière acharnée. Et j'ai eu une première étape, on va dire, avec mon cheminement avec le Coran. Parce que c'est le jour où j'ai fini de l'apprendre que j'ai compris que tout était à recommencer.
Subhanallah.
Et en fait, je me suis dit, j'ai parcouru et j'ai poursuivi un objectif. Et cet objectif-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'objectif. Et j'avais l'impression de tout démarrer à zéro. Et c'est là que je me suis dit, bah maintenant, il me reste toute une vie pour apprendre qui est ce Coran, et pour apprendre à vivre avec, pour apprendre à l'aimer et perdurer avec lui. Et ça, voilà. Et le fait d'avoir quand même mémorisé le Coran avant, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir entrepris cette route-là, de vraiment la mémorisation en premier, parce que ça m'a énormément aidé dans mes études, ça m'a énormément aidé aussi dans ma compréhension du Coran. Là où c'est vrai que maintenant, quand je renseigne le Coran, eh bien, je vais pas inciter forcément les gens à faire exactement comme moi, parce que tout le monde ne peut pas driver ses émotions et ses ambitions par rapport à ça. Si moi j'ai pu voir que la mémorisation n'était pas une finalité, et bien d'autres malheureusement peut-être ne feront pas le même parallèle. Oui. Donc il y a une frustration qui peut se créer, que j'ai déjà vue parmi des élèves qui terminent et qui me disent « mais en fait je suis super mélancolique parce que en fait, c'est cette brillance que tu as dans tes yeux, c'est ces yeux qui pétillent et qui s'illuminent quand tu parles du Coran, je ne l'ai pas ». Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème et que, en fait, l'enseignement du Coran, ce n'est pas que du tajwid, de la mémorisation, de la révision. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a terminé la mémorisation du Coran se sent finalement pas si proche que ça du Coran, dans son sens, dans son mot, oui. Et donc, du coup, c'est de là qu'est né tout ça. Le désir, en fait, de faire du Coran, vraiment, enfin, de l'enseignement du Coran, un pôle central dans ma vie et d'enseigner aux autres l'amour du Coran, parce que finalement, la mémorisation, tout le monde peut le faire.
C'est vrai que ce que vous dites, subhanallah, c'est très fort, parce que des personnes qui ont le Coran en entier, on doit être voilà, des milliers dans la communauté musulmane dans le monde, et pourtant c'est vrai que tout le monde n'accède pas forcément à ce que vous dites, cette étincelle en fait à l'évocation du Coran, qui est quand même le livre sacré, celui qu'Allah nous a révélé. Et justement, par exemple, lorsque vos élèves peuvent parfois vous confier leurs craintes par rapport à ça, qu'est-ce que vous leur répondriez? Parce que je pense que dans notre communauté, surtout dans la jeunesse, on doit être vraiment beaucoup à avoir le Coran, mais ça ne transparaît pas forcément en fait dans notre vie. Et je pense que ça doit être aussi beaucoup lié à finalement une logique, parfois dès leur plus jeune âge, de « on prononce correctement, tu vas à l'école, voilà, à l'école coranique, tu apprends tes pages, etc. » Et à la fin, il faut que tu l'aies. Après, pourquoi est-ce qu'il faut que tu l'aies? C'est une autre question à laquelle souvent on n'a pas de réponse. Donc, quels seraient les conseils finalement que vous donneriez à ceux qui vous confieraient ces craintes-là?
Bah, les craintes que tu as dit, c'est exactement comme ça que je les nomme aussi. Moi, je parle même de blocage. Et je commence toujours au début par étayer les blocages de chacun. Il y en a, ça va être des blocages comme... c'est marrant, en fait, quand on prend le temps de poser des questions et de sonder, Les blocages peuvent être de l'ordre de en fait, j'ai l'impression que le Coran c'est pour les élites. Et en fait, moi qui suis-je en fait pour y accéder ? Donc je vais apprendre ce que je peux, mais quant à la compréhension et tout ça, enfin, en gros, pour qui je me prends ? Alors que, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh le chantier que j'ai à gérer.
Il y a beaucoup à faire.
Il y a beaucoup à faire, parce que le Coran il est universel, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où même un non-musulman doit pouvoir se dire, mais ça me parle ça. Mais ça parle de moi. Et c'est exactement ça.
Se sentir concerné.
Se sentir concerné, exactement. Donc les blocages peuvent être de cet ordre-là. Ils peuvent être de l'ordre aussi de la frustration, de ne pas pouvoir le terminer vite, de ne pas pouvoir tout comprendre tout de suite. La frustration de se dire, oui, mais si j'apprends, j'ai peur d'oublier. Le blocage de se dire aussi, j'ai pas assez de temps à consacrer au Coran. Et finalement, qu'est-ce que le temps ? Est-ce que je n'ai pas le temps ou est-ce que je ne prends pas le temps ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Donc moi, je fais comme dans un chantier. Je fais des audits, en fait. Audit de ton temps, si toi, ton problème, c'est ton temps. Et là, vraiment, je sonde ta journée, fais un audit de tes journées. Vraiment, de telle heure à telle heure, tu vas regarder, tu vas compter, tu vas prendre un calepin. Et chaque fois que tu fais une activité, tu mets un timer. Là, j'ai fait ça de telle heure à telle heure, sans te juger rien. C'est vraiment un audit. C'est comme si un consultant, il arrive dans une entreprise et il veut juste voir un état des lieux. Et donc, tu fais ça. Et à la fin, on évalue. Et en fait, souvent, cette personne-là, elle est estomaquée de se rendre compte que, mais en fait, j'ai mis tant de temps pour ça, j'ai mis 2 heures ici, pas forcément sur des tâches, des mauvaises tâches ou quoi, hein, mais en fait, des fois, on élucide plein de choses. Je leur dis, mais vraiment, faites abstraction du temps sur le Coran. Ne vous dites pas, oh, mais le Coran, là-dedans, il a que 25 minutes, alors que c'est pas la question. Regardez comment est répartie votre journée. Une journée équilibrée. Pour que le Coran puisse s'installer dans le quotidien, il faut que la journée soit équilibrée. Et en fait, il est où ton temps de repos, là ? Et là, il n'y en a pas. Il est où juste ton temps de toi à toi, en fait ? Ton temps avec Allah, en dehors même des prières. Est-ce que tu as un temps où tu peux réfléchir avec toi-même ? On a une expression au Sénégal, parce que je suis sénégalaise, qui dit « Quand on veut prendre le temps de réfléchir à quelque chose, on dit à la personne « Laisse-moi discuter avec mon oreiller ». Comme pour dire, laisse-moi me poser, m'allonger, parce que si on discute avec l'oreiller, c'est qu'on est couché, c'est qu'on est bien, c'est qu'on est détendu et qu'on a le temps de cogiter. Et des fois, ce temps de cogiter, les gens ne l'ont même pas dans une journée. Encore plus les femmes, la charge mentale qu'elles ont, surtout si elles sont mères, etc. En fait, la journée, elle court comme ça. Je lui dis, en fait, toi, ta journée, si je la regarde, c'était la journée de quelqu'un d'autre, en fait. Tu as donné ta journée à plein de gens, c'est normal, au travail, aux enfants, au foyer. Mais toi, il y a une douche de 5 minutes ici, il y a le sommeil de la nuit là qui est entrecoupé, il y a les prières, heureusement. Et je dis, mais en fait, la frustration ici, c'est que tu n'as pas le temps pour le Coran, ou déjà, sans compter le Coran, ta journée déjà, elle est déjà pas du tout équilibrée, elle est déjà frustrante en elle-même. Donc en fait, de rajouter là-dedans, je n'ai pas le temps pour le Coran, ou je ne lui ai donné que 20 minutes, et déjà, dit Alhamdoulilah, de lui avoir donné 20 minutes, tu vas tout porter ta frustration sur le Coran alors que ce n'était pas lui le problème. C'était pas lui le problème. Donc fais un audit de tes journées, regarde en fait où va ce temps-là et commence. Et là, du coup, on repart sur une page blanche. On va poser les choses qui sont obligatoires d'être posées. Le temps de travail, on ne peut pas décider qu'on ne va plus au travail, d'accord ? Donc le temps de travail, le temps des enfants, le temps de repos. Il faut le caler autant. Il est aussi important qu'un temps de repas, qu'un temps de travail. Et en enlevant aussi les distractions, bien sûr, qui ne servent à rien et qui meublent le temps. Et là, tu verras que tu seras agréablement surprise de te rendre compte que le Coran, sur une journée, en enlevant tout ça, il me reste un capital de 2 heures, par exemple. Et ces 2 heures-là, tu n'es pas obligé d'en faire un bloc. Tu peux faire 30 minutes là, 30 minutes là, 30 minutes là, 30 minutes là. Et là, de ce fait, tu auras vécu toute ta journée avec ton Coran. Et donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, okay, les blocages, ils sont multiples. Il faudrait répondre à chaque. Mais ce qui peut aider, c'est quel est le blocage que j'ai ? Et je cherche pourquoi j'ai ce blocage. Donc là, tu vois, quand on a parlé du blocage du temps, finalement, on se rend compte que le Coran n'était pas le problème. C'est juste que le Coran, il vient sur un terrain sain. Si le terrain, il n'est pas sain, le Coran, il ne va pas venir et casser ton quotidien comme ça et tout effacer. Ça, c'est à toi.
C'est pas un effet miracle, c'est quelque chose à chercher.
Exactement, il faut. Et toujours, Allah demande toujours qu'on fasse un pas. Et lui, il vient vers nous en courant. Mais si on n'essaye même pas, la pluie, elle va pas tomber toute seule.
Il y a rien à attendre. Voilà,
oui. Ça va pas venir tout seul. Donc, et qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, c'est un travail que tout le monde peut faire. Après, c'est vrai que c'est bien aussi de se faire conseiller par d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent vers des profs de toutes matières confondues. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vient me voir. Parce que finalement, sinon la personne, elle aurait pu se dire elle-même, bah, j'ai un blocage, j'ai pas de temps pour le Coran. Et pour qu'elle arrive à cette conclusion-là, bah, faut prendre le temps, faut être humble, faut arrêter de culpabiliser, faut faire face à ses responsabilités. Elle me dit, mais en fait, c'est une torture de faire l'exercice que tu m'as dit. J'ai dit, mais en fait, faut être bienveillant envers toi-même. Le but ici, c'est pas de te punir. Moi-même, ça me concerne pas, en fait, que tu aies mis une heure sur les réseaux, t'aies fait ça. C'est ta journée, c'est tes 24 heures. Moi, ce que je veux que tu réalises, c'est, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et là, ça me fait penser justement à une ayah du Qur'an, et c'est là qu'on fait vivre le Qur'an au quotidien. Une ayah que, dont je parlais avec mes enfants plus récemment, dans Sourate Al-Qiyama, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira » Donc l'être humain est parfaitement connaisseur de lui-même, quand bien même il se trouverait des excuses. Donc ce qu'Allah il est en train de dire, là, il ne nous fait pas un reproche, il fait un constat. Il dit « De toi à moi, de toi à moi, quand tu mens, tu le sais. Quand tu as fait n'importe quoi, tu le sais. Quand tu as fait du bien, tu le sais. » En gros, ce qu'Allah est en train de nous dire, c'est s'il y a bien une seule personne que tu dois épargner de ton mensonge, c'est toi-même. Quand tu te regardes dans la glace, et c'est facile de se mentir à soi. C'est, tu as mal parlé à quelqu'un, d'accord, tu as mal parlé à quelqu'un, et là, de toi à toi, tu es en train de discuter. À partir du moment où tu es en train de dire, oui, mais elle l'a cherché. Là, c'est, il se trouve des excuses. Et là, tu délocalises le problème. Donc, tu ne régleras jamais ton problème parce que tu pars du fait, tu te regardes toi, et tu te dis, c'est sa faute à elle, finalement. C'est moi qui ai mal parlé, mais je dis que c'est sa faute. Quand est-ce que je prends les responsabilités ? Alors, ce qu'Allah est en train de nous apprendre ici, c'est à reconnaître. Tu as mal parlé, point, barre, ne cherche pas autre chose. Et donc, j'ai trouvé très beau ce genre de ayah où Allah nous met face à nous-mêmes, comme pour dire, tu te connais en fait. Vous, vous connaissez chacun d'entre vous, l'être humain, il se connaît très bien. S'il a fait du mal, il le sait. S'il a fait du bien, il le sait. Et quand bien même, il se cherche des excuses. Parce que là, il sait que l'être humain a ce procédé-là qui ressemble un peu à celui de Shaitan, de se dire oui, mais Shaitan a refusé de se prosterner et il a quand même réussi à mettre la faute sur Adam, papa Adam alayhi salam, puis sur Allah. En disant Allah, du fait, Fabima Arouaitani, donc du fait que tu m'as perdu, en gros, c'est de ta faute au final. C'est de sa faute à lui parce que déjà, il est créé d'argile et je dois me prosterner devant lui. C'est le dernier à arriver, pourquoi il a la promotion et pas moi? Et en plus, lui, c'est de sa faute, mais il y en a un qui est encore plus fautif, c'est toi qui l'a créé et qui m'a demandé de me prosterner devant lui. Alors qu'en fait, l'ordre à la base, c'était quoi? C'était, Allah n'a pas dit « prosternez-vous devant lui parce que si, parce que ça ». Il a juste dit « prosternez-vous ». Les anges sont meilleurs que lui, sont meilleurs que Iblis, et pourtant ils sont prosternés sans brancher. Pourquoi lui, où Allah précise « kana min al-jinni », donc il a été élevé finalement à un rang équivalent aux anges, alors qu'il n'est pas un ange. Donc déjà, Allah lui a fait une faveur. Il lui a fait une faveur en étant avec lui au paradis, en le laissant vivre parmi les anges. Donc, il crée Adam alayhi salam à ce point commun avec Iblis, où lui-même aussi n'est pas un ange. Et donc, Allah a demandé à tout le monde ici, prosternez-vous, point. Tout le monde s'est prosterné, et Iblis a trouvé le moyen de dire, oui, mais. Et quand il a fait sa faute, il dit, oui, mais, et re-oui, mais. Et là, c'est la descente aux enfers. Adam alayhi salam, en fait, les deux histoires sont en parallèle. On a vraiment les deux destins ensemble. Adam alayhi salam aussi a commis une erreur. Mais la première chose qu'il a dit, c'est « Ya Rab, si tu ne pardonnes pas, si tu ne nous pardonnes pas, on va être parmi les injustes. Ça va être très compliqué pour nous. » Et quand il a fait descendre du paradis, il est resté sur la même longueur d'onde. « Ya Allah, pardonne-nous. » Et là, on a vu aussi les conséquences. Donc, pour en revenir tout ça au blocage, souvent les problèmes liés au blocage, c'est les excuses qu'on se donne. Et là-dessus, il faut penser à Iblis, qui, c'est un peu trash hein, de dire ça, mais on a un exemple de ce que ça donne quand on prend des excuses. On dit que celui qui veut réussir trouve des solutions, et celui qui veut échouer ou qui veut pas, et ben, il trouve des excuses, sinon on n'avance pas. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
Oui, si, totalement, totalement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous avez notamment mentionné la bienveillance, le fait d'être bienveillant envers soi-même. Et ce qu'il y a de beau dans votre conseil, c'est finalement qu'il sort de la phrase que beaucoup peuvent nous dire, c'est « bah tu prends dans ta journée une heure, deux heures, on se les bloque, elles sont non négociables ». Et ce qui est intéressant, c'est que bah, justement, vous voyez les choses autrement, plutôt dans un cadre de le moment avec le Qur'an, au-delà du fait d'accorder deux heures à répéter, c'est surtout un moment avec Allah, un moment avec son Qur'an, donc qui est à cultiver et pas tant que ça à finir ou une case à cocher finalement dans chaque journée. Et ça, comme vous l'avez dit de manière très pertinente, ça concerne beaucoup les femmes finalement qui peuvent parfois avoir une charge mentale encore supérieure à celle des hommes. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour avoir pu écouter plusieurs de vos podcasts et même avoir la chance d'assister à un de vos rappels, mashallah, cette question justement de la femme en islam, vous la traitez d'une manière très particulière qui peut vraiment parler à tout le monde, qui est assez universelle. Et à ce sujet-là, justement, l'engagement féminin dans la communauté, maintenant, c'est une question assez sensible. En fait, à celles qui veulent agir pour le bien, le fait d'être une femme, très souvent, se dresse à leurs yeux comme un obstacle parce que maintenant, l'engagement, c'est vu comme un synonyme d'exposition, comme un synonyme presque de danger, même pour la femme, pour sa famille, etc. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez à ces femmes en un mot quelle est votre vision de la da'wa, finalement? Comment est-ce que vous la définiriez, vous?
La da'wa, la première définition que je lui donne, c'est qu'elle est intrinsèquement un devoir pour chacun, à son échelle. Quand on parle de da'wa, tout de suite, on a l'impression de penser à plein de gens, un micro, et il faut propager, il ne faut pas courir la terre, etc. Non, la da'wa que je fais juste avec mon voisin, ma voisine, le facteur, une personne qui nous aborde à la poste, tu vois, et bien juste ça, ça suffit comme da'wa, en fait. Ça peut être une da'wa silencieuse. Je ne parle pas, je vais observer et en fait c'est une forme de da'wa. Donc la da'wa, il faut vraiment se dire, à tout instant il faut se dire, c'est une obligation sur moi, c'est une obligation, et déjà ça aide beaucoup. Donc là du coup ça enlève la question de femme, homme, petit, grand, voilà, déjà je suis une femme, je suis un homme. Et quand on regarde même dans la constitution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la femme, il a fait que la femme et l'homme ne sont pas pareils. Physiquement ils ne sont pas pareils, biologiquement ils ne sont pas pareils, émotionnellement ils ne sont pas pareils, comportementalement ils ne sont pas pareils. Donc la femme, on connaît sa sensibilité, même si là aussi il y a des degrés, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est hypersensible, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est qu'on pleure pour rien, etc. Il y a des degrés, il y a des femmes qui ont une allure même dans leur comportement d'homme, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont
qui ont de la poigne,
beaucoup de poigne, qui ont du masculin entre guillemets, pas dans le sens homme-femme, mais dans le sens le côté fédérateur, le côté protecteur, le côté pourvoyeur. Il y a des femmes qui l'ont développé d'une manière ou d'une autre. Une femme, par exemple, qui élève seule ses enfants, elle va le développer d'une manière ou d'une autre. Une femme qui a la responsabilité, la charge de beaucoup de personnes, elle va développer ça. Quelqu'un qui était en danger dans sa vie va le développer. Donc, le fait, pourquoi je dis ça, quand Allah a créé la femme avec sa particularité, et la première information qu'on a par rapport à ça, c'est qu'elle a été créée d'une côte courbée, donc de notre papa Adam alayhi salam. Donc c'est une côte qui lui appartient déjà. Donc dire d'une femme, ah, bah, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela, bah, moi j'ai envie de dire, j'ai été créée à partir d'une côte qui était chez toi, hein, d'accord? Pour commencer. On remet les choses dans un contexte. Faut le garder ça en tête. Hein. Faut le garder. Donc ça veut dire que nous avons une aspiration commune, on a une racine commune. Et ensuite, Rasulullah le dit, si tu cherches à la redresser, tu vas le casser. Mais si tu le laisses comme ça, ça va rester courbé. Comme pour dire que les courbes de cette côte, ça va aussi très bien avec les courbes dans le corps d'une femme. Ça va avec les courbes, les fluctuations dans son moi. Elle a quatre phases dans son cycle, comme quatre saisons. Ça va avec tout, en fait, même le cycle de la vie. Par exemple, c'est la seule qui va avoir un homme, par exemple, sur sa biologie, même s'il a des enfants, au niveau hormonal, au niveau santé, en fait, son enfant ne va pas changer quoi que ce soit sur sa santé directement. Sur la femme, ça va changer. Pas seulement quand elle porte l'enfant et quand elle accouche, mais l'allaitement change complètement la donne, en fait. Ça change au niveau hormonal, etc. Enfin, et même après l'allaitement, on voit que l'enfant, il y a un certain attachement, etc., qui font qu'il y a un attachement, il y a comme un cordon ombilical qui est invisible, qui est resté. Et c'est ce qui fait qu'une mère peut avoir des pressentiments des fois sur l'état de son enfant alors qu'il est loin et qu'il est grand. Elle ne devient pas folle, c'est vraiment une connexion qu'Allah a laissée entre les deux. Et ce n'est pas étonnant, c'est les deux seuls êtres sur Terre qui ont vécu dans le même corps pendant 9 mois. C'est juste miraculeux. Donc comment ce lien-là peut se rompre? Et quand on regarde tout ça, quand on voit comment Allah a créé la femme dans sa sensibilité, etc., eh bien, on comprend que, finalement, par rapport à l'homme, elle aurait une manière de faire da'wa qui est différente. parce que elle a une sensibilité différente, elle a une capacité d'écoute qui est différente, elle a une largesse de cœur aussi qui est différente. On dit que finalement les hommes physiquement sur leurs épaules, ils peuvent porter beaucoup de charges physiques, mentales, etc. Les femmes portent dans un sens par rapport aux hommes plus de charges sur le point de vue émotionnel, sur le point de vue familial, sur le point de vue mental, etc. Donc chacun en fait à sa manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer homme-femme, ça ne sert à rien. On ne les oppose pas, ils sont complémentaires. Ce serait ridicule en fait de chercher pour une femme à être l'égale de l'homme. Pourquoi je serais ton égale? En cherchant à être ton égale, je vais devenir inférieure. Et l'homme pareil, en cherchant à être l'égale de la femme, je vais devenir autre chose, ça ne sert à rien. C'est l'équité qui marche, pas l'égalité. Donc Allah a fait preuve d'équité envers nous, en nous donnant à tous des ressources différentes. Donc quand tu parles, tu vois, de la darwa par rapport aux femmes, donc déjà, il faut se dire que c'est obligatoire dans tous les cas, que je sois un homme ou une femme, petit, grand. Mais en plus, en tant que femme, j'ai un poids dans la darwa que l'homme n'aura pas. Et si on me retire de la darwa, ben en fait, le monde va s'effondrer, hein, vraiment. Parce que ce que je vais apporter, l'homme ne pourra pas l'apporter. On est d'accord que, par exemple, pour parler à la petite enfance, aux enfants, les enfants vont être plus sensibles envers une femme qui parle qu'un homme.
D'accord. Oui,
et dans un sens aussi, les femmes vont être plus sensibles quand c'est des femmes qui parlent de leur réalité que des hommes. Et vice-versa, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer les femmes pour qu'elles puissent éduquer les autres femmes, d'accord ? Et pas l'inverse. Mais aujourd'hui, ce que je déplore, et je pense que tu as dû le voir, il y a beaucoup de sujets attraits à la femme qui ne sont pas assez abordés par les femmes et dont les références, on a plus de références hommes que femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas connaître les questions des femmes, c'est très important. Quand ils étudient la jurisprudence et tout, il faut tout étudier. Mais comment faire accepter par une femme toutes les réalités d'une femme quand en fait c'est étudié et exposé par un homme qui va prendre en compte la théorie seulement et qui va peut-être pas, sur le terrain, il ne peut pas savoir. Sauf si vraiment il est très investi, il va aller questionner les femmes de sa famille, les femmes de la ville, les femmes qui sont autour de lui, pour essayer de comprendre, comme Omar ibn Khattab le faisait par exemple, le deuxième calife de l'islam, eh bien il était très sensible à ces questions. Il allait voir les femmes, il allait voir son épouse, il disait, à ton avis par exemple, une femme, combien de temps elle peut patienter sans son mari quand il part à la guerre ou quelque chose comme ça? Et donc elles se sont concertées entre elles, il lui a dit, 4 mois. Au-delà de 4 mois, c'est trop. Et il a fait une règle, écoutez les soldats, qu'aucun d'entre vous ne reste plus de 4 mois en expédition, en guerre, sans rentrer chez lui. Il a pris en compte les réalités. Mais s'il s'était basé que sur le texte, que sur ce qu'il a entendu Rasulallah dire, que sur sa réalité d'homme, il va se dire, mais c'est bon, patiente, on fait la guerre quand même.
Oh. C'est vrai, subhanallah.
Non, en fait, là, il a pris en compte la sensibilité de cette femme. Parce que si cet homme peut aller à la guerre tranquillement, la tête reposée, c'est parce qu'il laisse une femme derrière lui qui assure son dépôt. Et si elle, en fait, on ne prend pas en compte son bien-être physique, mental, émotionnel, ça va avoir des répercussions sur le long terme sur cet homme. Quand il va revenir, dans quel état il va trouver sa femme? Et c'est là que la société fait n'importe quoi. Et finalement, tout ce que les sociétés qui veulent détruire d'autres sociétés ont compris, c'est de déstabiliser ce genre de choses. On va faire de sorte que les femmes, on ne les entende pas. On va faire de sorte que tu te tais, tu fais ce qu'on te dit. Et il y a la frustration qui naît ici, frustration qui naît là-bas. Et on mélange tout ça, ça fait un brouhaha pas possible. Et après, on oublie notre objectif de base. Finalement, aller droit vers Allah subhanahu wa ta'ala et y aller avec le maximum de personnes. C'est ça le but de la dawa, c'est-à-dire ma réussite, je ne la savourerai pas seule. Ce sera avec moi. Nous réussirons ensemble. De préférence, n'échouons pas ensemble, tu vois. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais j'ai l'impression que c'est quand la personne échoue, l'autre, il a rassuré. Ah, il n'y a pas que moi. Ben non, en fait, moi, personnellement, dans ma vie, c'est quand je vois quelqu'un d'autre échouer avec moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais à mes côtés? Pourquoi tu es là?
Oui, c'est vrai.
Tu ne devais pas être là. Je ne vais pas assumer tout seul. Va là-bas dans la réussite. Tu me laisses vivre mon échec et après, je te rejoins. Mais non. Alors que quand il y a la réussite, c'est-à-dire tout le monde ne ressent pas le côté indispensable d'être entouré d'autres personnes qui réussissent aussi mieux ou pareil pour savourer cette réussite-là, alors qu'on devrait arriver à ce niveau-là. Ma réussite n'a de sens que si elle a servi à la réussite des autres, ou elle va servir en tout cas. Mais si c'est juste la réussite, c'est pas un objectif. Aujourd'hui, c'est un appât que tout le monde te dresse comme ça, et c'est comme ce que je disais par rapport à l'apprentissage du Coran. Si l'apprentissage du Coran, dans sa finalité, est ton objectif, et que ça reste à la fin ton objectif, une fois que tu l'as atteint, tu vas faire quoi? Tu vas regarder les gens et tu vas être frustré quand d'autres aussi vont apprendre et tu vas te dire, ah bah finalement ils vont me dépasser dans autre chose. Enfin, non, c'était pas ça l'objectif.
Oui, c'est vrai, subhanallah, ce qui est très judicieux, c'est qu'à partir de la question de la da'wah, comme vous l'avez si bien dit, on a accès à une question beaucoup plus large qui, ouais, en fait...
Moi, je suis toujours en floraison. Quand il y a un truc, je vais dans tous les sens.
Mais non, mais c'est vraiment appréciable parce que du coup, vous avez réussi à mettre en lumière le fait que bah, maintenant, c'est carrément une destruction de la famille qui est faite parce qu'on détruit le principe de base de l'humanité qui est la complémentarité homme-femme et que bah, les femmes, finalement, doivent et peuvent surtout être autant présentes que les hommes dans la sphère de la da'wah. C'est juste qu'il faut le faire différemment, comme pour tout. D'ailleurs, on fait des choses différemment, c'est pour ça que, bah, que lorsque l'homme et la femme sont ensemble et sont complémentaires, ça fonctionne bien. Alors, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup Zeyneb pour cet échange vraiment enrichissant, que ce soit en termes de spiritualité, d'éducation ou même de manière générale la vie quotidienne finalement des femmes musulmanes jeunes ou moins jeunes. En tout cas, vous êtes vraiment un exemple inspirant, machallah. Et j'encourage vraiment toutes les femmes d'aller écouter vos podcasts qui sont tous aussi intéressants que les uns que les autres, machallah. Vous ne serez pas déçus. Et sur ce, barakallahu fiki pour votre venue. On espère vous revoir très bientôt, inshallah. Ce fut un honneur de vous recevoir et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Ethique Média.
Barakallahu fiki, à bientôt.